comme l'a dit Joël, une des caractéristiques de Dieu, c'est d'être immuable, de ne pas changer. C'est vrai qu'on voit comment aujourd'hui le monde change. On appelle ça le changement de paradigme. C'est pas le changement de paradis, c'est le changement de paradigme. Le paradigme, ce sont les idées du monde, ce sont les idées d'une époque, les façons de faire, d'être d'une époque. Et ces façons de faire et d'être sont en train de changer. C'est comme un train qui est sur le quai, qui est en train de démarrer, avec tout un contenu. Et soit vous restez sur le quai, soit vous rentrez dedans. Ceux qui restent sur le quai, ils sont seuls. Ils sont seuls. Mais ce n'est pas pour ça que c'était mieux à l'époque. Souvent on dit ça, c'était mieux à l'époque. Mais de quelle époque on parle ? C'était mieux au commencement. Si on se met à la place de Dieu, c'était mieux au commencement, c'est-à-dire avant le péché. C'est véritablement la seule époque qu'il faut regretter, c'est celle-ci, celle avant que Adam et Ève ne pêchent. J'aimerais donc revenir à cette idée que j'avais tout à l'heure sur donc l'imitation de Dieu, qui est un thème que Paul reprend à plusieurs reprises dans ses épîtres. Et donc j'aimerais qu'on aille cette fois-ci dans l'épître aux Philippiens, verset 4, vous pouvez le chercher, mais c'est très court, c'est 4, verset 13, où Paul dit « Je puis tout par celui qui me fortifie ». C'est formidable, n'est-ce pas ? Si vous voulez devenir un surhomme, eh bien vous lisez ce texte. Et vous dites, avec Christ, je peux tout. Je suis, n'est-ce pas, indestructible. Je peux tout faire. Je suis capable de tout. Quand Paul écrit ses paroles, en fait, il ne peut rien faire. Parce qu'il est en prison. Il est privé de liberté. Et donc, c'est ça le paradoxe, n'est-ce pas, de ce passage. C'est que, d'un côté, il est privé de liberté, et de l'autre côté, il dit « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Paul écrit à une communauté avec laquelle il a des liens très étroits, très affectueux aussi. C'est un groupe de chrétiens qu'il a mis en place lors de son deuxième voyage missionnaire. Et si Paul est en prison, c'est pas parce que il a volé une banque, c'est pas parce qu'il a fait un excès de vitesse, c'est pas parce qu'il a tué quelqu'un ou parce qu'il a fait un larcin quelconque, mais c'est parce qu'il a prêché l'évangile de Jésus-Christ. Et donc, si vous lisez toute l'épître aux Philippiens, et je vous encourage à la lire à la maison, on ne va pas le faire maintenant, mais pendant que Paul est en prison, il y en a d'autres qui prêchent l'évangile aussi, et eux, ils ne sont pas en prison. Ils prêchent l'évangile pour des motifs qui sont impurs. On le lit dans le chapitre 1. Verset 15, quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie, donc par jalousie et par esprit de dispute, mais d'autres le prêchent avec des dispositions bienveillantes, ceux-ci agissent par amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'évangile, tandis que ceux-là, animés d'un esprit de dispute, annoncent Christ par des motifs qui ne sont pas purs et avec la pensée de me susciter quelques tribulations ou quelques persécutions. Donc il y a Paul qui prêche l'évangile de Jésus-Christ et qui est en prison à cause de ça. Et puis il y a les autres qui prêchent par jalousie, par convenance personnelle. Et ceux-là, ils ne sont pas en prison, ils ne sont pas inquiétés. Et ils ont tout le loisir de créer du trouble dans le cœur des gens de cette communauté. » Dans l'épître aux Philippiens, il y a de nombreuses exhortations de la part de ce prisonnier qu'est Paul. Et notamment, une exhortation que vous connaissez, n'est-ce pas, qui est de se réjouir. Hein, c'est pour ça qu'on appelle l'épître aux Philippiens l'épître de la joie. Bon, voilà. Je l'ai dit, on le répète chaque fois qu'on en parle, mais en réalité, n'est-ce pas, Paul a un véritable enseignement derrière ce terme, « réjouissez ». Et donc, mais il y a une autre exhortation qui, à mon avis, à mon sens, n'a pas toujours été bien comprise, ou en tout cas pas estimée à sa juste valeur. Et donc, c'est une exhortation qui reprend celle que j'ai lue avant dans Éphésiens, et que vous trouvez au chapitre 3, verset 17, et qui se résume à ça, donc « Soyez tous mes imitateurs ». Voilà. Donc Paul est en prison, et il dit aux autres, il dit aux gens « Soyez mes imitateurs ». On pourrait dire à Paul, bah, écoute, ton résultat, il n'est pas très fortiche. Moi, je veux bien te suivre, mais bon, si c'est pour terminer ma vie en prison, t'es pas très performant comme chrétien, quoi. Enfin, il vaut mieux un chrétien libre, capable de prêcher l'évangile, plutôt qu'un chrétien en prison, non ? Est-ce que c'est pas mieux ? C'est pas plus efficace ? Mais Paul dit, soyez tous mes imitateurs. Paul était... C'était qui, Paul ? Qu'est-ce qu'il fallait imiter, en fait ? Qu'est-ce qu'il dit de faire ? Il dit, n'est-ce pas, Paul était courageux. On le sait par le fait qu'il allait et qu'il prêchait à des endroits où personne, peut-être, n'aurait voulu prêcher. Il était téméraire. Il était intelligent. Il était cultivé. Il connaissait très bien les Écritures. Paul avait des qualités qui étaient remarquables. Remarquables. Mais, en fait, il n'y a rien de tout ça qu'il faut envier à l'apôtre Paul. L'imitation, c'est quoi ? On l'a vu tout à l'heure, n'est-ce pas ? Imiter, c'est faire l'œuvre d'un acteur. En grec, imiter se dit mimétis, celui qui imite un personnage, qui imite ses expressions, qui imite sa voix, qui imite ses gestes. Et je me rappelle, j'étais un jour dans une grande église de la région qui compte plusieurs pasteurs. Dont le pasteur fondateur. Et donc j'étais là, mais j'étais pas dans la salle de culte, j'étais dans une salle annexe, mais j'entendais la prédication. Donc je voyais pas qui parlait, mais j'étais convaincu que c'était le pasteur fondateur qui parlait dans l'église. Et lorsque j'ai pu aller dans la salle de culte, je me suis aperçu que c'était pas lui. C'était un de ses adjoints qui prêchait. Mais il avait tellement adopté la voix, les attitudes, les expressions de ce pasteur en chef, que finalement, si on ne le voyait pas, on pouvait se dire, ben, c'est l'autre qui prêche. Voilà, il avait donc la voix, les mimiques, les expressions. Mais ce n'était pas le vrai. C'était un autre. C'était un autre. Les imitateurs, parfois, ils se déguisent aussi. N'est-ce pas ? On peut, pour imiter, si on prend un déguisement, alors on est plus crédible, peut-être. Et c'est ce que Paul dit, n'est-ce pas, dans 2 Corinthiens 11, les versets 13 à 15, lorsqu'il parle des faux apôtres qui se déguisent en apôtres de Jésus-Christ, tout comme Satan se déguise en ange de lumière. Voilà, ça fait... Le déguisement ne fait pas de Satan qu'il ressent qu'il est un ange de lumière, qu'il est comme Dieu. Et le déguisement des faux apôtres ne fait pas d'eux des vrais apôtres. Et donc les Philippiens ont un peu... doivent faire face à ce même problème. Sauf que Paul n'est pas là. Il est à Rome, hein, dans la prison. Paul n'est pas sur place pour affronter ces faux prophètes, ces faux apôtres. Et donc, il donne un enseignement, il donne une exhortation en disant à ses frères et sœurs, « Soyez tous mes imitateurs. » Et c'est cet enseignement qui va leur permettre de faire la différence entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Et pour comprendre ce que Paul veut dire, bon, il faut vraiment tout lire, mais je vais juste prendre quelques passages. Donc Philippiens 1, le verset 13, on lit que je vais lire à partir du verset 12, « Je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé, c'est-à-dire mon emprisonnement, a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les liens. Et la plupart des frères dans le Seigneur, encouragés par mes liens, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. » N'est-ce pas ? Il y a d'un côté... les faux enseignants, ceux qui sont des copies, mais qui ne sont pas les vrais enseignants, qui ne sont pas les vrais apôtres. Et de l'autre côté, il y a moi, qui suis en prison. Et il dit, le fait que je sois en prison a contribué au progrès de l'Évangile. Et derrière ça, il y a une question, n'est-ce pas ? Qu'est-ce qu'eux ont fait pour le progrès de l'Évangile ? Moi, je suis en prison. Et ça contribue au progrès de l'Évangile. Je veux que vous sachiez, frères, ça a contribué au progrès de l'Évangile. Et partout, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les liens. C'est-à-dire que l'annonce de l'Évangile m'a conduit en prison. Mais même en prison, et même ceux qui m'accusent, aujourd'hui, savent vraiment pourquoi, eh bien, je suis là, pour prêcher l'Évangile. Et eux-mêmes, dans le prétoire et partout, ont entendu parler de Christ. Personne n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les liens. N'est-ce pas ? Paul a rendu ça très clair. C'est pour Christ qu'il a été arrêté. Et la conséquence, c'est que la plupart des frères dans le Seigneur ont été encouragés par ma persécution, par les liens dans lesquels je suis. Vous savez que ça, c'est un effet qu'on voit assez souvent dans le monde. Lorsque, c'était en Indonésie, dans un camp, il y avait des jeunes qui étaient là, je pense que c'était la tranche au-dessus des ados, quoi. Et ils avaient passé plusieurs jours ensemble. Ils étaient prêts pour servir le Seigneur. Et ils ont été, alors qu'ils faisaient une réunion, ils ont été cernés par des musulmans, des islamistes, qui étaient armés de machettes. Et donc... ils ont pris un des jeunes qui était là et ils lui ont posé la question, mais alors toi, c'est quoi ta motivation ? Il lui dit, moi je suis un soldat de Jésus-Christ. Et alors ils lui ont coupé un bras, directement. Et lui n'a fait que répéter ça, je suis un soldat de Jésus-Christ. Et ils l'ont littéralement mis en pièces devant tout le monde. Et donc il est mort là. Et Ça a été évidemment la débandade. Tout le monde est parti en courant dans la jungle. Il y a eu plusieurs blessés encore. Mais vous savez, le résultat de ça, c'est que de nombreux jeunes qui étaient là ont décidé qu'ils deviendraient des soldats de Jésus-Christ, qu'ils deviendraient des évangélistes, qu'ils deviendraient des serviteurs de Dieu pour annoncer l'évangile de Jésus-Christ. Et ils ont été très nombreux à se lever pour cela. Et ça, c'est là une des conséquences, n'est-ce pas, lorsque la persécution arrive. Plutôt que de réfréner l'évangile, ça a un effet inverse. Ça le pousse en avant. Et c'est ce que Paul est en train de dire. La plupart des frères dans le Seigneur, encouragés par mes liens, ont plus d'assurance pour annoncer la parole, pour annoncer sans crainte la parole. Ceux qui prêchent pour des motifs impurs, comme c'était le cas, ils ne risquent pas la prison. N'est-ce pas ? Paul, lui, savait que depuis le chemin de Damas, quand il avait rencontré le Messie, il lui avait dit, n'est-ce pas, il souffrira. Je vais lui apprendre ce qu'il devra souffrir pour moi. Et Paul savait que c'était, voilà, l'œuvre qu'il allait accomplir serait une œuvre qui serait émaillée de souffrance. Mais en réalité, c'est la même chose pour nous, n'est-ce pas ? Ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Un peu plus loin, au verset 20, je lis au milieu du verset, mais « Maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance. » Soit par ma vie, soit par ma mort, car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Paul est en train de dire, n'est-ce pas, alors qu'il dit aux chrétiens, soyez mes imitateurs. Dans ce verset, il est en train de dire, Christ est ma vie et la mort m'est un gain. C'est-à-dire qu'il est en train de dire, lui, moi je ne suis pas un acteur. Je ne suis pas comme... C'est ceux qui prêchent pour des motifs impurs. Je ne suis pas un acteur. C'est Christ qui est ma vie. C'est-à-dire que je ne suis pas en train d'imiter Christ dans le sens le copier dans ses mimiques, sa façon d'être, de faire et de parler. Christ est en moi. Christ est ma vie. Ça n'est pas, je ne suis pas en train de moi vivre ma vie pour Christ. C'est Christ qui vit sa vie en moi. Je ne suis pas un acteur. C'est Christ qui vit sa vie en moi. Est-ce que Christ vit sa vie en vous et en moi ? N'est-ce pas ? Je veux travailler pour Christ. Je veux faire ça pour Christ. Je veux me lever pour Christ. Ce sont de bonnes intentions. On ne va pas réfréner ça. Mais il y a quelque chose de dangereux derrière ça. C'est de vouloir le copier. D'adopter tout ce qui lui appartient sans pour autant que ce soit Christ qui vit en nous. Au verset 3, au chapitre 3, et on va lire... À partir du verset 7, n'est-ce pas, c'est juste pour le contexte. Paul à nouveau dit, prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis, car les circoncis, c'est nous qui rendons à notre Dieu un culte, rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, nous qui nous glorifions en Jésus-Christ et nous mettons et mettons point notre confiance en la chair. Et donc, c'est là où il dit, moi aussi, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Et donc là, il fait état de tout ce qu'il était avant, sa qualité d'hébreu, de la tribu de Benjamin et tout ça. Et aussi son zèle et la persécution qu'il avait mis en place contre l'Église, irréprochable à l'égard de la justice et de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes ces choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi. La loi nous invite à obéir à des commandements qui parlent de Dieu, qui viennent de Dieu. La nouvelle alliance nous donne la capacité de respecter ces commandements sans même y penser. N'est-ce pas? C'est ça le miracle. C'est que la vie de Christ en nous, puisque Christ est l'accomplissement de la loi, celui qui a accompli toute la loi est présent dans le cœur de ses enfants par le Saint-Esprit. Et donc, au verset 11, n'est-ce pas? On lit, afin de connaître que Christ est la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection des morts. La conformité, ce n'est pas l'imitation. Le chrétien ne fait pas, n'imite pas Christ. Il devient conforme à Christ. Vous avez la même idée dans Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. On ne se conforme pas, on n'imite pas Dieu. On ne se conforme plus aux idées de ce siècle, mais on est transformé par le renouvellement de l'intelligence pour devenir conforme à Christ. Il y a une autre exhortation qui est extrêmement importante dans ce livre aux Philippiens, et vous la trouvez dans le chapitre 2 et au verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Paul s'identifie à Christ. Il ne l'imite pas. N'est-ce pas? Chapitre 3, verset 12, on l'a lu avant, non, on ne l'a pas lu, mais juste après ce qu'on a lu, « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. » Et donc, quand il dit « Ayez les sentiments qui étaient en Jésus-Christ », ce n'est pas « Devenez comme Jésus-Christ », mais « Comme moi, courez ». Courez, n'est-ce pas? Et je ne suis pas comme Christ. Je n'ai pas atteint la perfection de Christ. Donc, il s'identifie à Christ, mais sans limiter, sans vouloir paraître au-delà de ce qu'il est réellement. « au verset 8 du chapitre 3, pardon, il dit, je les ai regardés, j'ai renoncé à tout. Hein, il le dit de plusieurs manières. Verset 7, ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ, et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. Paul est en prison. Et la prison, n'est-ce pas, c'est le lieu du dépouillement total. Mais en fait, Paul était déjà dépouillé de tout. C'est pas en prison qu'il a été dépouillé de tout. Il y a beaucoup de témoignages d'hommes de Dieu qui ont passé de nombreuses années en prison, qui ont, notamment Wang Mingdao, qui a dit que il a passé 23 ans en prison et il a dit que Dieu l'a vidé de lui-même dans cette prison. Mais Paul était déjà vidé de lui-même. Il avait déjà renoncé à tout. La prison ne lui a rien appris. En prison, il n'est pas devenu encore plus spirituel. Il était déjà spirituel. Christ était déjà présent de façon forte en lui. Et on n'a pas besoin de passer par la case prison pour devenir des super chrétiens. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Et d'ailleurs, il y en a qui ne sont jamais devenus des super chrétiens en prison, je vous le garantis. Le renoncement à ce qu'on était, c'est un acte de volonté. C'est un acte de volonté. Dieu est miséricordieux, Dieu nous fait grâce. Il se présente à nous, il vient à nous, il nous choisit. Toutes ces choses sont vraies. Mais le renoncement, c'est quelque chose qui nous appartient. Dieu, n'est-ce pas, ne peut pas renoncer à notre place. C'est à nous de renoncer. Et Paul a renoncé à tout. J'ai regardé tout comme étant de la boue. Tout ce que j'étais avant, toute ma richesse, toutes mes capacités intellectuelles, toute la présence sociale qui était la mienne dans la société dans laquelle je visais, j'ai renoncé. Et, n'est-ce pas, il y a, dans le chapitre 2 que je viens de lire, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant, en devenant semblable, en prenant la forme d'un serviteur et en devenant semblable aux hommes. » N'est-ce pas ? Paul a dit « J'ai renoncé à tout ». Mais avant ça, il a cité Jésus, qui lui-même avait renoncé à tout. Jésus s'est dépouillé lui-même. Il a accepté de ne pas être l'égal de Dieu sur la terre. Il a accepté d'être l'égal des hommes sur la terre. Il a accepté d'enlever la puissance qu'il avait à sa disposition, de l'écarter pour vivre véritablement la vie d'un homme. Il s'est dépouillé de tout. Il s'est humilié lui-même. Et c'est, n'est-ce pas, c'était le message aussi de Paul. Il s'est humilié en acceptant même que ceux qui le persécutaient, donc les faux prophètes, puissent trouver leur compte dans la façon dont ils prêchaient, hein, puisqu'il dit « Ceux qui agissent par amour Il dit au chapitre 1, verset 17, il y en a qui prêchent Christ pour des motifs qui ne sont pas purs et avec la pensée de me susciter quelques tribulations dans mes liens. Qu'importe, de toute manière, que ce soit pour l'apparence, que ce soit sincèrement, Christ n'en est pas moins annoncé. Vous vous rendez compte la grâce qu'il y a dans ces paroles. En fait, Paul est en prison pour des motifs injustes. Les autres prêchent l'évangile pour des motifs qui sont injustes. Eux, ils sont libres. Et Paul dit, ben, au moins Christ est annoncé. Christ s'est rendu obéissant, n'est-ce pas, on l'a lu, jusqu'à la mort. Et donc au chapitre 21, Christ sera glorifié dans mon corps, au verset 21 du chapitre 1, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort, car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Que Christ soit glorifié. Ça, c'est ce que Paul désire par-dessus tout. Est-ce que vous et moi, nous sommes en mesure de dire ce que Paul a dit ? Est-ce que nous pouvons dire « Soyez mes imitateurs » ? N'est-ce pas ? En fait, si quelqu'un dit « je ne peux pas dire ça », ce n'est pas de la fausse modestie. C'est un problème. C'est un problème. Parce que Paul n'est pas Dieu. Et il le dit clairement. Je ne suis pas Dieu. Je ne suis pas Jésus. Je n'ai pas atteint la perfection. Mais il dit « soyez mes imitateurs ». Donc si on ne peut pas dire à nos semblables « imite-moi ». Fais ce que moi je fais. Et c'est bien de faire ça. C'est pas de la fausse modestie. Enfin, si, c'est de la fausse modestie. C'est pas de la modestie, c'est de la fausse modestie. Et c'est un problème. Parce que... comment est-ce que Dieu est présent aujourd'hui sur la terre ? Son esprit. Mais son esprit, il est où ? Il est dans les enfants de Dieu. Joël a dit avant que Dieu ne change pas. La présence de Dieu est là, avec les enfants de Dieu. Et il faut que chaque enfant de Dieu puisse dire à celui qui est devant lui, « Sois mon imitateur. » Je ne suis pas parfait. Je n'ai pas atteint la perfection. C'est pas... le sujet n'est pas là. Qu'est-ce qu'il faut imiter ? Parce que, en fait, si on lit bien, Paul ne dit pas seulement « Soyez mes imitateurs ». On va le relire. Chapitre 3, verset 17. « Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en vous. » Donc il dit pas seulement « Soyez imitateurs de moi », mais de tous ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous, les apôtres, en moi. Est-ce que nous sommes de cela ? Est-ce que nous marchons selon le modèle ? Au chapitre 4 et au verset 4, pardon ? Voilà. Réjouissez-vous, toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Alors, n'est-ce pas ? Je vais le redire à ma façon. Je suis en prison. Je n'ai pas ma liberté. Comme moi, réjouissez-vous. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Réjouissez-vous. N'est-ce pas ? On se dit, oh, c'est... Je préfère cueillir des cerises quand même, non ? Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Ça, c'est ce qui suit. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications et des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Avec quoi est-ce que nous remplissons nos pensées ? La même question dite autrement, c'est à quoi passons-nous notre temps tous les jours ? Alors, il y a le temps du travail, on va travailler, mais le temps libre, le temps où on ne travaille pas, qu'est-ce qu'on fait avec ce temps-là ? On remplit nos pensées de quoi ? Paul nous fait une proposition. Tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne, que tout cela fasse l'objet de nos pensées. Peut-être qu'on devrait se le coller sur le front. Si chacun se le colle sur le front, l'autre peut le voir. Ce que vous avez appris et reçu et entendu de moi, voilà ce que dit Paul, ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Et le Dieu de paix sera avec vous. Voilà. Que toutes ces choses fassent l'objet de vos pensées, verset 9, ce que vous avez appris, reçu, et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Est-ce que je peux dire ça ? Est-ce que je peux dire ça à vous ? Est-ce que je peux dire ça à mon voisin ? Est-ce que je peux dire ça à tous ceux à qui je parle ? En fait, dans cet épître, ce que Paul est en train de dire, c'est que les vrais modèles, ils se trouvent en prison. Qu'il s'agisse d'une véritable prison comme celle que Paul est en train de vivre, ou qu'il s'agisse d'une prison volontaire, c'est-à-dire, ou d'un esclavage volontaire, c'est aussi un des grands thèmes de Paul, n'est-ce pas ? C'est-à-dire la mise à disposition pleine et entière d'un homme, de ses pensées et de sa volonté à son Dieu. Paul a donné l'exemple de Jésus qui s'est dépouillé lui-même, c'est-à-dire qui a renoncé à tout ce à quoi il avait droit pour être le fidèle serviteur de Dieu et pour pouvoir dire aux hommes, regardez-moi, imitez-moi. L'apôtre Paul lui-même le dit, il s'est dépouillé de tout. Il a renoncé à tout, il a regardé à tout ce qu'il avait comme étant de la boue pour pouvoir dire à vous et à moi, soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Jésus-Christ. Le modèle à suivre, c'est le modèle qui est en prison, qui accepte la prison comme étant la vie normale. Pas la prison des hommes. N'est-ce pas ? Paul ne dit pas qu'il est prisonnier des hommes. Vous le lisez partout, n'est-ce pas ? Dans Philémon, dans peut-être l'Épître aux Éphésiens encore. En tout cas, il y a encore deux endroits où il le dit. où il dit Paul, prisonnier de Christ. Éphésiens. Et Philémon. Prisonnier de Christ. Ce sont ceux-là les modèles qu'il faut suivre. Les prisonniers de Christ. Qu'ils soient en prison ou pas en prison, ça n'a pas d'importance. Paul n'a jamais considéré que ce qui lui arrivait, c'était la faute des hommes. C'était le chemin que Dieu avait pour lui. Il savait qu'il devait souffrir et passer du temps en prison. Il savait qu'il allait mourir pour Christ. Est-ce que nous sommes dans la même démarche? Est-ce que nous avons cette volonté de nous soumettre complètement, de soumettre nos vies, nos corps, notre porte-monnaie, nos maisons, nos biens à Dieu, et les regarder comme de la boue, regarder tout cela comme de la boue, pas quelque chose qui nous appartient? À partir du moment où nous regardons les choses comme si elles nous appartenaient, nous sommes en danger. Nous sommes en danger parce que nous avons peur de les perdre. Et si Dieu le veut, vous les perdrez. Quoi que vous fassiez. Mais il ne le veut pas. Il ne le veut pas nécessairement. Mais il veut que si ça doit servir le royaume de Dieu, vous acceptiez de le perdre de bon cœur. Paul a accepté de tout perdre. Jésus a tout perdu. Et avec ça, ils ont tout gagné. Gagné Christ. J'ai gagné Christ. N'est-ce pas? Est-ce que nous voulons gagner Christ? Ce qui énerve le monde et ce qui va nous conduire en prison, c'est justement cette incapacité qu'a le monde de mettre la main véritablement sur les enfants de Dieu. Parce qu'ils n'appartiennent pas au monde. Ils appartiennent à Dieu. Et c'est Dieu qui conduit leur vie. C'est le cas pour nous ce matin. Je propose qu'on prenne juste quelques minutes pour prier sur ces paroles.